ce que j'ai tiré là de Hegel, extrait de Hegel, c'est juste avant la partie qui s'appelle
Lordship and Bondage, maîtrise et servitude.
Si on en reste au moment narratif, au moment du récit, Hegel nous encourage à penser que c'est la transition entre féodalisme et ère moderne.
Parce que les seigneurs eux-mêmes sont féodaux.
Nous devons aussi nous rappeler combien le mot « Herr », c'est-à-dire « Lord »
évoque le Seigneur, Dieu.
Ainsi, cela
peut aussi renvoyer à la suppression
de la religion, et spécifiquement la chrétienté, en philosophie, qui arrive aussi dans cette section.
Et c'est d'ailleurs le fardeau à la fois de Kant et de Hegel, l'inauguration du sécularisme chrétien, son sabotage affirmatif en philosophie, dans un sécularisme prétendument non marqué, j'imagine que ça veut dire neutre.
Ce qui fait partie de notre
combat féministe depuis l'intérieur de l'islamophobie.
Comme un certain avant-gardisme féministe en oublie parfois la leçon.
J'esquisse.
Et je pense là à des collègues comme Sabah Mahmoud. Mais quoi qu'il en soit, pour notre propos, on devrait aussi dire que l'entier récit sur le genre, femmes et LGBTQ, peut aussi être lu selon la dialectique maître-esclave. L'esclave déterminant que le maître maîtrise la situation. Cette histoire n'est toujours pas finie. Je reste pas intéressée dans le fait que les femmes prennent le pouvoir, même si la problématique du plafond de verre reste un problème structuré en forme de double bind.
C'est là où l'avant-gardisme et
le tokenisme entrent en considération.
Note de la traductrice. Le tokenisme, c'est le fait de prendre une personne d'une minorité et de la mettre en position, mais de absolument pas tenir compte de ce qu'elle dit, que les féministes appellent aussi le principe de la Schtroumpfette. On reprend la traduction.
Toute ma carrière a été
détériorée
par ça, même si je suis, paraît-il, quasi inconnue. Au début, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma carrière avec ça, par le tokenisme, c'est-à-dire ne sachant pas si je dis
des bonnes choses
ou des choses tokenized.
Quoi qu'il en soit, là,
on parle de l'abstrait qui émerge du féodalisme se transformant en capitalisme.
Comme l'abstraction en tant que telle émerge et le féodalisme entre en transition, notre plus vieux instrument d'abstraction, qui est le genre, apporte lui aussi son abstractibilité et abstrait, suivant les règles du capital, son commencement dans le capitalisme naissant à la fin du siècle européen.
Mon chemin est peut-être cru et peut-être que je dors avec mes ennemis, mais nous devons garder cette complicité de manière absolument déterminée dans la tête que le moment de l'abstractibilité du genre est ce qui autorise l'accès à l'abstraction. C'est cet instrument ou cette arme qui, dans le cours des siècles,
rend possible la rencontre avec l'abstrait en tant que tel, capital, au XVIIIe siècle. Le point que j'ai fait au début de ma conférence nous rappelait ça.
La chose qui permet de bouger au départ a été dit plus tard comme une chose arrivant après.
Comme un événement tardif qui aurait été rendu possible par le mouvement de l'histoire.
Je répète ici quelque chose qui a besoin d'être répété, mais je passe là. Donc, je me réfère au discours absolument de certitude masculine sur la démocratie.
Critique et phénoménologique. Dans l'intérêt de compléter l'avant-gardisme par de l'éducation électorale.
Le projet, c'est vraiment l'éducation générale. Et si ceux d'entre vous qui ont regardé sur toutes les choses que j'ai produites pour Occupy Wall Street, vous verrez que j'ai vraiment dit quelque chose sur ce business
d'éducation électorale.
L'éducation, ça va bien au-delà de l'importance de l'électoralisme, quoi. Mais ça, c'est encore autre chose.
À mesure que nous avons examiné
la pratique syntagmatique de Hegel,
découvert
que l'épistémographe va de la
Gewissheit to Wahrheit, into Bewusstsein, from mere states to being, from height to sign words.
Des mots en height au mot sein, de l'état au vivant. Quand on va dans cette syntagmata du genre, on doit aller dans une route complètement différente.
Donc je suis revenue là-dessus parce que j'ai senti qu'il fallait le faire avant d'en arriver à une conclusion. Mais permettez-moi d'avancer. Pour pouvoir rentrer dans cette discursivité multiplement localisée, je ne peux pas ici faire une conférence.
Depuis l'intérieur de la machinerie
du féminisme qui avance, je vais vous donner un exemple bénéfique de productivité et de complicité, de sorte que vous ne pensiez pas que je critique simplement négativement l'extérieur et décourage l'effort. Pas du tout. Je suis à l'intérieur.
Passons à la prochaine partie maintenant.
Je vais parler d'une transformation noble.
Dans l'extrême vigueur de la démocratie
abolitionniste du 19e siècle aux États-Unis.
De mère esclave, subalterne.
Transformée dans un groupe nommé les Jubilee Singers, qui utilisent l'académie pour
leur auto-renforcement justifié.
Voilà, je vous montre des femmes anciennement esclaves et leur discours qui a survécu jusque dans les années 30. Donc ça, c'est un très beau livre avec leurs chansons et leurs discours des années 30. Voilà, là, je vous montre l'image des Jubilee Singers, donc les chanteuses du Jubilé, en 1930. En 1871, juste 3 ans après l'émancipation, avec leur mère esclave encore vivante, elles ont travaillé pour disciplinariser ce qu'était la culture des esclaves et en faire un truc académique. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est l'université Fisk. Prochaine diapo.
Elles sont restées 8 mois en Allemagne. L'expérience a été similaire à celle faite en Angleterre. Bienvenue, écoutée, divertie par les cours royales, la noblesse et les paysans.
Elles ont été reçues dans des milieux tout à fait de pointe
par les plus éminents critiques de l'Allemagne.
Juste 3 ans après l'émancipation. Le dernier mot, le mot de la fin, en Allemagne a été
qu'elle désarmait la critique.
Et là on n'est pas d'accord. Non, la critique ne doit jamais être désarmée.
La visite en Angleterre et en Allemagne, ça a été la chose la plus visible de leur campagne.
Leur renommée grandit rapidement et se renforça par le fait même d'avancer, jusqu'à ce que leurs chants finissent par résonner de par le monde entier.
Et ensuite, après 7 ans de campagne, ces humbles
chanteuses
sont retournées à Fisk
et ont déposé à ses pieds 150 000 $ et de nombreux cadeaux.
Ça, c'est une transformation. Et l'université Fisk, elle existe toujours. C'est l'université noire et qui souffre de la privatisation générale des universités, certes, et de la réduction des fonds fédéraux, certes. Et l'autre université noire, la Howard Université, nommé après le général Howard, c'est donc l'autre université noire. C'est un général blanc qui a travaillé infatigablement pour le bureau de Friedman pour la première tentative de sécurité sociale, de social welfare, juste après la guerre civile, donc, aux États-Unis.
Qui s'est terminée par l'abolition de l'esclavage.
Ce type-là, Howard, il a travaillé à faire une sécurité sociale pour une allocation sociale pour les Noirs. Voilà, il y a tout un problème de toute façon entre la privatisation des universités, le fait de faire des universités d'élite ou pas. Voilà un article du Washington Post qui dit qu'il y a eu 75 lay-offs, je sais pas ce que c'est, par rapport à cette université. Pauvre université Howard qui est en train de sortir, d'être éjectée de tout le système.
Voilà, vous pouvez regarder l'article que j'ai cité, dont j'ai cité un extrait dans les feuilles que je vous ai distribuées. C'est pourquoi j'ai parlé du statut de classe de votre université.
Il n'existe pas un truc qui s'appelle l'académie. On ne peut pas juste dire la justification académique. C'est une erreur. On ne peut pas oublier l'apartheid de classe dans l'éducation. Partout.
Quand vous ou moi parlons.
Moi, j'ai enseigné, après tout je peux en parler, puisque j'ai enseigné aux deux extrémités du spectre.
D'un côté, école élémentaire pour former des enseignants.
les endroits les plus pauvres de mon propre état natal.
Les plus pauvres, les plus reculés, les plus arriérés.
Et il y a Columbia.
Et là, je n'enseigne pas l'Asie du Sud-Est. Je ne suis pas une native informant. J'enseigne l'anglais et le français et l'allemand à des doctorants.
Donc, j'enseigne à chaque bout de ce spectre et j'utilise les mêmes standards. Et donc, je peux parler avec une certaine conviction de l'apartheid de classe concernant l'éducation. Quand nous nous représentons nous-mêmes comme exclus de la légitimation académique, on doit aussi regarder par en dessous de nous à des groupes genrés qui sont complètement exclus de tout savoir, à tel point que c'est considéré normal par eux-mêmes d'être exclus, quoi. L'idée de savoir, c'est pas juste le savoir à propos du savoir.
Même si remis en question par de très sérieuses avancées du savoir sociologique, comme c'est le cas dans notre cas.
Le fait de se représenter soi-même comme une périphérie dans la conscience publique.
Voyage dans un petit cercle, de la même manière que la recherche et le développement dans la politique.
Comme petit groupe à part, sans toucher aux personnes à qui c'est censé profiter. La tâche qu'on a à faire, c'est de réarranger de manière incoercitive le désir, de produire une volonté active pour de la justice sociale, pas seulement pour nous-mêmes,
mais pour les versions
simultanées du globe.
Les versions simultanées, pas les versions séquentielles du pré-moderne à la modernité. C'est ça la tâche la plus ardue. Et s'il vous plaît, pensez-y.
Je ne suis pas un traître au groupe qui nous contient tous, vous et moi. Je ne suis pas en train de parler contre la disciplinarisation en faveur de l'engagement, mais donc pensez-y tous bien.
La confusion dans la parole, d'où est-ce qu'elle vient? Plutôt que dire que la parole est confuse.
C'est confus parce que ça reflète une contradiction sérieuse.
Et c'est confus de penser que si on a résolu la contradiction, on aura résolu le problème.
Si jamais on croit qu'on a résolu le problème, c'est peut-être que, simplement qu'on a ignoré le problème.
Et il ne va pas partir. Merci beaucoup.
It will not go away. Thank you very much.